Bras zéro, brassage radio. Danse. Cette émission est danse. Parce qu'on a un créneau d'une heure à la radio, de 19h à 20h à Canal Sud. 60 minutes, pas une de plus. Avant et après nous, il y a d'autres gens qui viennent faire d'autres émissions avec leur clé USB, leur son, leur programme. 18h15. On finit d'écrire l'intro. On est dans les starting blocks. Le stress du direct, l'erreur technique, la faute de frappe à l'oral qu'on pourra pas modifier. 19h03, tu, vous, m'écoutez faire cette intro. Ou peut-être que c'est pas 19h03, parce qu'en fait, tu, vous, m'écoutez en podcast. Même si on n'est pas un podcast. Et c'est bien ça, tout le sujet de cette émission. Et aussi celui de sa densité. Oui, si on était un podcast, on aurait fait une émission d'1h30 et on aurait aéré le tout pour la tranquillité de vos oreilles. Mais en même temps, si tu nous écoutes en podcast, tu peux mettre pause. À bras zéro, on est passé d'1 million d'écoutes en moyenne pour chaque émission à quelques centaines seulement ces 2-3 dernières années. Ce qui, vu notre travail acharné, la qualité de nos sketchs, la plume implacable de nos intros et la flamboyance de nos invités, a le don de nous décevoir un peu. Alors, quand on a le seum de ça, ici dans les studios, on dit « C'est la faute des podcasts, blablabla, du capitalisme, blablabla, nous on fait de la radio, blablabla. » Bref, d'un commun accord, on mettait sur le podcast notre descente de popularité. Puis, il y a quelques semaines, on s'est dit qu'on allait creuser un peu plus, faire face, se demander c'est quoi le podcast, d'où ça vient, pourquoi ça a explosé, Bras zéro a-t-il été un influenceur? C'est quoi la différence avec la radio, les podcasts DIY, les Indus, la vraie, la fausse radio? Bref, on a mis du beurre dans les haricots. Cette émission donne la parole aux personnes qui font, comme Juliette qui tisse une histoire du podcast, Alexandra de la web radio Onde Courte, Karine de Radio Galère et du réseau Radio Rageuse, Brisco alias Billy Pantalon pour ses podcasts. Il y aura aussi des sketchs et des jingles made in Bras zéro. On a aussi beaucoup pensé aux personnes qui écoutent de la radio ou des podcasts. Oui, on pense toujours à vous. Alors faites de même. Faites remonter notre audience sur le 92.2, le site de Canal et, oups, aussi sur Spotify. Bonne écoute.
Le podcast va commencer. Vous vous apprêtez à écouter une heure de Radio Bras zéro. Installez-vous confortablement. Fermez vos yeux. Sentez les points de contact de votre corps sur votre chaise ou votre matelas. Cette écoute va vous mener vers la détente, l'ancrage et le lâcher prise. Imaginez-vous une boîte Mettez-y tous vos problèmes et refermez-la. Vos pensées sont maintenant libres pour aller pleinement vers un nouveau voyage. Laissez-vous alors guider dans le monde de la radio. Vous allez découvrir ce grand univers vertigineux du podcast.
Ce podcast est sponsorisé par Relaxepam. Relaxepam est un médicament conseillé dans les cas de troubles de l'anxiété. Un anxio, un podcast et les soucis sont sous le tapis.
Offre soumise à conditions nominatives et non cumulables, réservée aux personnes âgées de 18 ans et plus et limitée à la participation par foyer ou entité juridique.
Je suis jardinière, chercheuse indépendante, créatrice sonore. Voilà, entre autres choses, et aussi dans l'autodéfense sanitaire. Et voilà, j'ai pas mal bossé, notamment autour des questions sonores, de la création sonore ou de paysage audio, on va dire, médiatique audio, avec la revue Saint-Aune quand elle existait, c'est-à-dire jusqu'en 2019.
Alors, qu'est-ce que c'est que cet objet que le podcast ? Est-ce que toi, tu as une définition du podcast que tu pourrais donner ? Est-ce que ça se définit, cet objet ?
C'est un objet qui... Je ne peux pas le définir simplement. En tout cas, je peux le définir de manière beaucoup plus nuancée et complexe que celle que donnent les grands studios de podcast industriels. Pour qui le podcast, c'est la modernité, c'est le bon son, et ça s'oppose à la radio qui serait une vieillerie, pour le dire vite. Et le podcast aurait tout réinventé. Donc moi, ma définition, elle est plus complexe, elle est ancrée dans un temps beaucoup plus long, elle est ancrée dans plus d'un siècle d'histoire du son. Puisque les premières diffusions radio, elles commencent dans les années 1920, poste de radio publique. Elles ont été précédées par plein d'années d'expérimentation de ce qu'on pourrait nommer, en fait, des formes de petits podcasts perso, parce que à travers l'utilisation de fréquences de poste à poste ou bien de fréquences plus larges que les gens chopaient en circulant en fait sur la bande hertzienne avec leurs outils du moment. Et voilà, pour moi le podcast il s'ancre nettement dans cette histoire-là. Et il y a beaucoup de choses dans les usages contemporains, y compris le fait de faire son podcast depuis chez soi, depuis son ordi, qui rappelle des usages beaucoup plus anciens. Et je trouve ça intéressant toujours de raccrocher au temps long. Après, le podcast en tant que tel, enfin le nom, c'est un nom qui a été donné par le podcast industriel, en l'occurrence par les GAFAM, et plus précisément par un des A des GAFAM, Apple, puisque c'est l'abréviation de iPod et Cast, c'est-à-dire le fait de diffuser du son, sous-entendu, via un iPod, qui était donc un des premiers outils d'Apple dans les années 2000, un des premiers outils, on va dire, de l'audio portatif.
D'accord, je ne savais
réalité,
pas ça. Hein.
Et donc c'est eux en fait qui ont diffusé ce terme très massivement, alors que la pratique de diffusion d'internet mobile et notamment via internet, elle a largement préexisté. Dès le début des années 90, en fait, Radio France Internationale, par exemple, a commencé à mettre en ligne ce qu'aujourd'hui on nomme des rediffusions, des replays, d'une de ses émissions, et plus particulièrement d'une chronique qui faisait une sorte d'histoire d'expression de la langue française. Et c'est les premières diffusions, en tout cas en langue française, que j'ai pu repérer sur le web. Et ensuite, ça s'est diffusé plus largement. Le fait d'utiliser le web comme outil de stockage, déjà, ça s'est diffusé parce que les gens ont commencé à avoir davantage accès, mais ça, c'est à partir de la fin des années 90, que l'usage d'Internet s'est démocratisé. Euh, et, euh, Et ensuite, le podcast a été associé à une technologie plus spécifique qui est celle du flux RSS, c'est-à-dire la distribution automatique des nouveautés d'un site internet précis via un fichier qu'on appelle un flux RSS. Et donc, automatiquement, le son, en l'occurrence un fichier, déjà MP3 à l'époque, arrivait dans votre ordinateur ou bien dans votre... à l'époque, c'était des ordinateurs. Aujourd'hui, la définition du podcast que je donnerais, elle serait double. D'une part, ce qu'on nomme aujourd'hui podcast, c'est bien souvent du podcast industriel. Et je pense qu'on va prendre le temps de définir ce que cet adjectif apporte. C'est-à-dire des formats spécifiques, des manières spécifiques de faire du son, d'organiser le son, de le monter, des cultures sonores spécifiques. C'est ça qu'on nomme podcast aujourd'hui, et qui relève du podcast industriel. D'autre part, et là, ça me semble plus fertile en réalité, le podcast peut être tout à fait non industriel, et dans ce cas-là, il va se rattacher à des pratiques indépendantes, autonomes, autogérées, généralement individuelles, à la fois individuelles et collectives. Individuelles dans les outils, dans le côté DIY, et collectives parce que tout de suite rattachées à des communautés. Pour diffuser un podcast, il y a une communauté de producteurs et une communauté d'auditeurs autour de ce podcast. Et ça, ça a commencé dès avant que Apple diffuse ce terme de podcast par des productions indépendantes qui ont commencé à avoir lieu dès le début des années 2000. Et par exemple, en France, il y a eu deux grandes séries qui sont sorties, séries audio, qui sont sorties dans les années 2000, qui étaient très rattachées à l'univers de l'heroic fantasy ou du jeu de rôle. Au sein d'une communauté qui s'est nommée la Sagasphère, puisque c'est la communauté qui produit des sagas MP3. Donc il y avait cette communauté qui a commencé, sans forcément être déjà nommée comme telle, mais a commencé à diffuser des séries audio autoproduites, autodiffusées, avec les moyens du bord. Simultanément, il y avait des gens qui commençaient à faire des émissions de radio, en réalité, mais qui diffusaient uniquement sur Internet, sans passer par une radio asso. Sans non plus passer évidemment par les radios publiques qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Et voilà, et cette approche-là du podcast en tant qu'outil, en tant qu'appropriation multiforme d'un nouveau moyen de diffusion audio qui invente ses formats propres, qui sont multiples à l'époque, qui vont aussi bien de la fiction qui est jouée avec les potes du coin jusqu'à... on décide de faire un énorme plateau, par exemple une émission hebdomadaire de 2 heures ou de 3 heures, puisqu'il n'y a plus de grille et on est libre. Et on fait une énorme émission sur les jeux vidéo qui, à l'époque, personne ne veut en parler. Les grands médias trouvent que ce n'est pas un sujet pertinent. Voilà, donc un espace aussi de défrichage, de nouvelles thématiques et de nouvelles manières de faire de la radio, de nouvelles personnes derrière les micros. At least two of them. And...
Je m'appelle Alexandra Joss, je suis animatrice, réalisatrice radio depuis les années 2001 exactement. Et je suis coordinatrice et formatrice dans l'association Média Commun et directrice d'antenne, on va dire ça comme ça, de la web radio ondecourte.org.
Et pourquoi tu fais de la radio ?
Je crois que c'est parce que ça me bouscule sans arrêt dans ma vision du monde. Ça me fait réinterroger sans arrêt le monde qui m'entoure. Et depuis, je suis devenue prof en fait, contractuelle d'art plastique. Et en fait, quand j'ai mixé la pédagogie avec la radio, je me suis rendu compte qu'avec cet outil radio, je pouvais aller n'importe où. je pouvais toucher n'importe quel public et c'est mon média en fait, c'est mon médium plutôt. Il y a un truc, c'est ma manière d'aller vers des gens vers qui j'irai pas ou peu, ou que je serais pas amenée à rencontrer quoi. Ondes courtes, c'est venu il y a 7 ans maintenant, parce que la radio elle a officiellement elle a été inaugurée il y a 5 ans, mais en fait on était en train de bosser dessus depuis 2 ans en amont. Ça vient d'un mélange d'une passion, de ma passion pour les licences libres, en fait, le monde de la culture du libre, qui s'est mis à me passionner il y a une dizaine d'années. Bon, les licences libres, c'est autour du... C'est les copyleft, hein, c'est tout ce qui est... Donc ça part des logiciels, mais après, il y a eu tout ce qui était autour de des musiques sous licence libre. Et moi, c'est cet aspect, c'est comment... rendre la culture commune, le travail autour des communs. D'ailleurs, médias communs, c'est pour ça aussi. Aujourd'hui, les modes de diffusion sur Internet ne sont plus adaptés aux anciens modes de diffusion. Enfin, comment dire, c'est l'inverse plutôt. On diffuse plus la musique de la même manière qu'avant. Et le droit d'auteur à l'ancienne ne correspond plus aux usages actuels. En fait, le piratage, tout le monde pirate aujourd'hui. Et on ne peut pas lutter contre le piratage. D'ailleurs, Adopi l'a bien remarqué, ils se sont bien vautrés. Et en fait, les licences libres, pour moi, c'est une manière de me positionner à cet endroit-là. C'est-à-dire que arrêter de dire « Ah oh, ben oui, le fait de pirater des films, ça tue l'industrie du cinéma », c'est faux. Les entrées n'ont jamais été aussi bonnes que depuis que les gens téléchargent et regardent des films, parce qu'en fait, la culture, contrairement à d'autres biens de consommation, les gens, quand on a une appétence sans fin pour la culture, plus t'en consommes, entre guillemets, plus t'as envie d'en avoir. Et pour revenir du coup sur Ondes courtes, nous on diffuse que de la musique sous licence libre sur cette radio. Et c'est cette démarche-là qu'on défend, le fait de dire que la licence libre, tu défends ton droit d'auteur à la française, qui est un droit d'auteur bien particulier, qui est le plus protecteur au monde en fait, mais tu acceptes de diffuser librement et gratuitement. Et ça, pour moi, c'est important.
Et vous diffusez quoi alors sur, à part de la musique libre, j'entends?
De la musique. Et après, plein de productions sonores. Alors, pas toujours, elles, pour le coup, sous licence libre, parce qu'il y a d'autres modèles qui ne sont pas... Il y a d'autres modèles de... Comment on appelle ça? C'est les organismes qui récoltent l'argent pour les créateurs sonores. Ce n'est pas les mêmes. Et ce n'est pas, à mon sens, c'est pas le même problème. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce discours-là. Mais on diffuse, du coup, des productions indépendantes. De podcasteurs ou de gens qui démarrent souvent, des primo-podcasteurs, je finis par les appeler comme ça, des gens qui ont des projets assez nouveaux, ou des gens qui font de la radio, bah, comme Brasero par exemple, qu'on diffuse également parce que y a un discours militant qui nous plaît, et parce qu'il y a des formes originales, et parce que c'est des copains, et pour toutes ces raisons-là. Mais plutôt indépendant. On a peu ou pas... on ne relaie pas forcément de podcasts très célèbres. C'est pas... Ils ont d'autres moyens de diffusion. Ah, c'est ça, l'idée.
Mmh. Ok. Et pourquoi le choix d'avoir fait une web radio?
Alors, d'une part, parce que moi, je viens du milieu des radios associatives locales. Donc, j'ai travaillé à Canal Sud, d'ailleurs. J'ai été bénévole à Campus, à FMR, à Occitanie. Je crois que j'ai fait le tour, en fait, de toutes les radios. Je m'y plaisais... Mais j'étais aussi à ce moment-là, sur les radios associatives, il n'y avait pas forcément une grande liberté de format. Il y avait quelque chose d'un peu formaté, je trouvais, justement, sur le créneau d'une heure, où moi, je ne trouvais pas forcément toujours ma liberté. Et puis, quand j'ai commencé... Et puis, cet attrait pour les licences libres m'a fait choisir le support Internet. Mais l'erreur que j'ai eue au début, c'est de penser... au début de Ondes courtes, quand on a monté Ondes courtes avec les copains, la bande de copains, moi, j'ai fait une web radio généraliste. Donc, j'ai refait une grille de programmation classique qu'on pourrait retrouver avec voilà, des émissions, ensuite de la musique, du blabla, de la musique, etc. Et j'ai réalisé assez tardivement que... il y a 3 ans maintenant, qu'en fait, c'est pas ce qu'attendent forcément les gens d'une web radio. Et puis aussi parce que depuis le confinement, et même avant, hein, avec la mode des podcasts à l'anglo-saxonne, la culture de l'écoute a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, ils apprécient, ils vont vers du podcast, ils écoutent du podcast, ils en téléchargent. Et ça, ben, moi, je ne l'avais pas vu venir, je dois avouer. Et maintenant, ben, je m'adapte. Hein. Donc, on est en train de transformer tout le site, là, actuellement. Si on va sur ondescourtes.org, ça ne ressemble pas à grand-chose parce qu'on est en train de modifier le site pour en faire une plateforme de diffusion de podcasts et avoir un stream, mais là, plus le stream de Radio Généraliste, mais un stream de musique qui va s'appeler Blague et Musique,
qui est une parodie de Rire et Chanson, mais que sous licence libre avec des blagues de copains. Voilà. Donc pas sexiste, ni raciste, ni gna gna, des blagues cool.
Ça y est, ça enregistre. Bon, alors du coup, on commence. Du coup, je sais pas, on commence par dire, par faire Brasero Podcast.
Brasero Podcast.
Ouais, mais tu peux le dire un peu pas Brasero Podcast. C'est peut-être ta voix le redescendre, juste pour essayer. Hein.
Brasero Podcast. Brasero Podcast.
Voilà, c'est pas mal.
Vous écoutez Brasero Podcast.
Vous écoutez Brasero Podcast.
C'est bien là.
C'est bien. Vous écoutez Brasero Podcast.
Alors, moi, je m'appelle Karine et je fais de la radio depuis une quinzaine d'années. J'ai commencé à faire de la radio sur Radio Galère avec toute une bande de féministes. Et on faisait une émission qui s'appelait « Le complot des cagoles ». Et aucune de nous n'avait fait de la radio avant. Donc, on s'est toutes formées à la radio en faisant cette émission. Parce qu'on voulait être autonome, on ne voulait pas demander à un technicien de faire la technique. Donc on a appris, on avait aussi très envie de faire du reportage, du montage. Donc on a tout appris par nous-mêmes, ensemble. Donc voilà, c'était ma première expérience de radio et c'était aussi une expérience assez intense parce que c'était aussi une émission thématique tous les mois. Donc on faisait des recherches ensemble, on partait de nos vies. Donc c'était un apprentissage aussi au niveau du contenu. Mais voilà, c'était un apprentissage collectif. Donc moi, j'ai commencé à faire de la radio dans ce contexte-là. En plus, peu après, il y a eu la création de Radio Rageuse. Donc Radio Rageuse, c'est un réseau d'émissions de radio de meufs, de gouines, de trans et de féministes qui existent, ça s'est créé à peu près là, 2008-2009. Et l'idée, c'était de nous mettre en réseau entre personnes qui faisaient des émissions de radio dans des villes différentes. Et notamment, l'idée, c'était beaucoup parce que on avait envie de se rencontrer, de s'échanger, de se renforcer. Mais à l'époque, en tout cas tout au début, pas toutes les radios associatives faisaient du streaming. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas forcément écouter l'émission des camarades de Toulouse. Et que notre façon d'écouter les émissions des camarades de Toulouse, c'était qu'elles faisaient des CD, et que quand on se rencontrait à un événement féministe comme les Lady Fest de Toulouse, et on s'échangeait des CD. Et finalement, ça a été... Maintenant, en regardant en arrière, on se dit « Ah bah oui, c'était... » Finalement, on a créé une plateforme de podcast féministe, donc... C'est rigolo, parce que c'était pas vraiment le but non plus. Mais donc cette frontière entre podcast et émission, elle est assez dynamique en fait. Elle est pas figée. Alors en tout cas, la web radio, on a commencé à en parler il y a quelques années aux Rencontres Radio Rageuses. Et un des premiers objectifs de cette web radio, c'est que malheureusement, ça arrive régulièrement qu'une émission féministe se fasse expulser de sa radio locale parce que le contexte, c'est que les radios, elles sont pas toujours très favorables aux féministes. Du coup, c'est quand même arrivé, cette année-là, c'était arrivé à Dégenré qui s'était fait virer de Radio Kaléidoscope après des années d'antenne. Et c'était arrivé aussi à Mauvais Genre, qui s'était fait virer de... ou qui était parti pour conflit politique de je ne sais plus quelle radio d'Angers. Et donc l'idée de créer une web radio, c'était l'idée d'avoir un espace indépendant où on puisse continuer à faire de la radio, même si on n'a plus accès à une radio FM localement. Et on puisse continuer à faire, par exemple, des émissions en direct. Ça, c'était vraiment important. Parce qu'effectivement, on peut continuer à faire des émissions enregistrées et après de les mettre téléchargeables en podcast. Mais c'était aussi l'envie d'avoir un espace où on peut faire du direct, des plateaux radio Et en plus, bon, on peut imaginer plein de possibilités avec cette web radio. Là, elle est expérimentale, elle avance à son rythme, parce qu'on se voit quand même qu'une fois par an, donc pour prendre des décisions, c'est lent. Mais on peut imaginer plein de choses, en fait, avec une web radio. On peut imaginer que c'est un énorme outil commun. Et que, par exemple, bah, je ne sais pas, pour le 8 mars, chaque émission de chaque ville, elle décide de faire 2 heures de direct de sa ville. Et puis, on peut avoir... on peut imaginer plein de choses. C'est quand même assez chouette. Voilà, alors où est-ce qu'on en est? Donc ça, on a commencé il y a quelques années. Au départ, on s'était dit on voulait contacter des geeks féministes pour qu'elles nous aident à monter ce projet. Et puis finalement, ça s'est pas la rencontre, elle s'est pas faite. Et donc on a mis plus de temps parce que finalement on a tout fait à zéro. Mais en même temps, c'est assez intéressant parce que ça nous a un peu poussé à apprendre vraiment les choses de A à Z, puisque non seulement c'est faire une web radio, mais avant la web radio, c'est créer un serveur. Et apprendre à l'administrer pour faire tourner un programme de streaming, pour faire une web radio. Voilà, donc ça c'était quand même... je pense que quand on a parlé de la web radio, je ne suis pas sûre qu'on s'était dit qu'on allait aller jusque-là. Cette web radio, elle n'existe pas encore en continu. Plutôt, on l'active quand on en a envie et quand on en a besoin. Donc c'est surtout pendant les radios que ça tourne, pendant les rencontres radio-rageuses.
Voor mij poetsen de mensen het koper. Waarom, waarom? Omdat ik een oude jas ben. Ik ben een oude jas met een kraakhoofd erbuiten. Ik rochel omdat het zo hoort. Bij mij hoort een koperen pot, een
Salut, je m'appelle Brisco. Mon blaze pour les podcasts, c'est Billy Pantalon. Et la première fois que j'en ai réalisé un, c'était pour le concours estival d'Arte Radio, en 2019, je crois. Et alors, autant dire que, en fait, j'y connaissais tellement rien que j'ai mis 3 mois pour... Donc, 3 mois sur Audacity pour fabriquer un truc qui dure 3 minutes. Mais j'ai été bien saucée parce qu'en fait, dans la foulée, j'ai gagné le concours. Et en fait, cette victoire, c'était un peu comme un très gros sandwich d'auto-estime, un très gros et très bon sandwich d'auto-estime, et qui a fait que j'ai continué à faire de la radio. Je suis pas sûre que j'aurais continué si j'avais pas été récompensée comme ça. Donc ensuite, j'ai rejoint un collectif parisien qui s'appelle Transmission. C'est aussi une sorte d'école, en fait, qui dispense des formations. Et c'est une bande de personnes avec des têtes bien faites qui sont de très très bons conseils. Donc c'est grâce à ces personnes que j'ai enfin lâché Audacity pour commencer à utiliser Reaper. Et donc grâce à eux, j'ai lâché Audacity et j'ai réalisé De la jalousie au jacuzzi, qui est une fiction sonore qui parle de comment ne pas clamser quand on est pris dans les tourments de la jalousie. Voilà. Et depuis quelques temps, je fais des petites chroniques sexo pour le podcast Gouinement Lundi, avec mon acolyte qui s'appelle Ernest Bonsoir. Donc pour ce qui est de la diffusion, en fait, c'est jamais moi qui m'en charge. La première fois, c'était Arte Radio. La deuxième fois, c'était le collectif Transmission. Et là, c'est Gouinement Lundi. Donc finalement, moi, je suis vraiment peinard main dans le slip, quoi. Moi, je trouve qu'en tant qu'auditeur, ça a vraiment du charme de se faire surprendre à répétition quand tu changes de fréquence. Je trouve que tu t'ennuies rarement, en fait, quand tu changes de fréquence. Enfin, il y a toujours, Canal Sud ou Skyrock pour te surprendre. Alors que les podcasts, je trouve l'avantage, c'est que tu peux vraiment cibler ce qui t'intéresse et adapter ce que t'écoutes à tes besoins. Par exemple, hier, j'ai tapé une insomnie, j'avais pas accès à mes podcasts. Du coup, je me suis tapé, donc j'ai mis la radio, je me suis tapé. La seule émission non musicale qu'il y avait, c'était une émission sur la chute du mur. Bah là, mes podcasts, ça m'a manqué. Voilà. Et mon expérience de radio rageuse. Je trouve que certaines émissions sont pas assez léchées à mon goût. Mais ça, c'est parce qu'en fait, je suis trop habituée aux podcasts et aux choses du coup qui sont très très réfléchies et écrites à l'avance. Mais je trouve quand même qu'il y a des pépites. Et je pense notamment à l'émission qui s'appelle « Le patriarcat nous latte aussi la gueule ». Donc voilà pour Radio Rageuse. Pépites, et ça fait rêver en fait aussi. Je trouve... Le fait de se retrouver en collectif autour d'une table, je me doute que ça doit être des moments forts d'émulsion et tout. Quand même, j'adore Radio Rageuse.
Brasero, la radio est morte. Vive la radio. Non, vive le podcast. Je recommence. La radio est morte. Vive le podcast.
La radio est morte.
Vive le podcast.
La radio est morte.
Vive le podcast.
Vive le podcast.
La radio. Youhou, vive le podcast.
Vive le podcast.
La radio est morte. Vive le podcast.
La radio. Vive le podcast.
Vive le podcast.
Vive le podcast.
Vive le podcast.
La radio est morte.
Chers auditeurs, savez-vous qu'en 1789, les habitants de Versailles se sont tous mis à louer des chambres ou des logements entiers aux députés des États généraux? Et oui, c'était avant l'heure. Je vous raconte ça parce que est le sponsor de cet épisode du Cœur sur la table. Et aussi pour vous dire que c'est possible de compléter ses revenus.
Vous êtes fan de podcasts? Vous avez envie de plonger dans le monde fascinant de l'entrepreneuriat?
Salut, découvrez c'est Cassandra du studio podcast Nouvelles Écoutes.
Vous avez envie de découvrir des histoires fascinantes, parfois inquiétantes?
Radioactif, le podcast de l'Andra.
Bonjour, c'est Laura Rem. Vous écoutez le podcast des idées larges sur Arte Radio.
Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr. En mai 2023, j'ai écouté 200 podcasts pour une durée de 69 heures environ.
Chers auditeurs,
la manche qu'on m'a saisie.
En 2005, quand ils ont créé ce terme de podcast, c'était pour accompagner non seulement la promotion commerciale de l'iPod, mais aussi d'un nouveau logiciel qui venait de mettre au point et qui permettait également d'enregistrer du son très facilement et de le diffuser. Et de le diffuser, on avait déjà dans nos ordi communément, mais enregistrer, c'était moins évident. Et faire du montage audio aussi, c'était moins évident. Et donc, il y a eu ces moments de bascule, mais qui pour moi, contrairement à l'histoire officielle, en fait, qui ne va parler que de l'histoire à travers les sauts techniques qui sont effectués, comme si c'était eux qui décidaient des modifications du cours de l'histoire. En réalité, pour moi, ces sauts techniques interviennent après des années de maturation dans certains usages. Alors, je parle de maturation, mais aussi, on peut aussi bien parler d'appropriation aussi, hein, par le secteur capitaliste et industriel de pratiques autogérées et de leur absorption progressive jusqu'à... Bah, pour moi, après, c'est la définition du podcast Indus, quoi, de complètement phagocyter ces pratiques autogérées pour devenir, pour s'imposer comme un état de l'art de ce que ça signifie de faire du podcast, alors que c'est uniquement un état de l'art capitaliste sur ce que c'est de faire du son et d'en diffuser auprès d'une communauté.
Oui, alors là, du coup, il faut y aller, quoi. C'est quoi ce truc du podcast industriel?
Bah, l'idée est venue en c'était 2000, je me rappelle plus. C'était juste avant la pandémie, ça devait être 2020 ou 2020, pardon. Au moment de la création de l'Assemblée d'artisans, artisanes sonores et radiophoniques, les sons fédérés. Et ça, c'était lors du festival Longueur d'onde à Brest en 2020, donc en février 2020. On s'est dit, mais on peut pas laisser le podcast comme ça se définir comme représentant tout. Les studios commerciaux, on peut pas les laisser faire ça, parce que c'est le même coût qu'a fait l'agriculture intensive à ce qui devrait juste se nommer l'agriculture et qu'on nomme aujourd'hui l'agriculture bio. C'est-à-dire que là, on a voulu vraiment renverser la chose et de dire non, nous, on représente la radio, on représente le podcast et vous ne représentez que le podcast industriel, c'est-à-dire la frange capitaliste des pratiques multiples qu'on peut avoir avec l'outil de la radio, l'outil Internet. Et ensuite, à partir de là, donc pourquoi industriel? Parce que c'est parti du constat que ce qui était en train de s'opérer sous nos oreilles depuis, on va dire, à peu près 2015 en France, le tournant en France c'est 2015 et c'est plutôt autour des années 2010 aux États-Unis. C'était une industrialisation de toute la chaîne sonore, depuis à la fois les moyens de production sonore, jusque aux oreilles des auditeuristes. Par exemple, on l'a constaté aussi bien au sein des radios publiques, c'est pour ça que le podcast industriel, ça relève pas uniquement des gros studios de podcast qui existent aujourd'hui, mais... ça relève de formats et de pratiques qui peuvent aussi bien être celles de la radio publique ou parfois d'ailleurs de petites radios qui veulent mimer ça en confondant ça avec le professionnalisme. Pourquoi industriel ? Parce qu'on a pu constater, par exemple, les temps pour produire un documentaire ou une fiction se sont raccourcis. Les espaces de production se sont raccourcis aussi. Tout a été compressé, rationalisé. Il a fallu se mettre à faire du documentaire, mais sans prendre le temps d'aller rechercher sur le terrain exactement, de faire une enquête avec le son, avec les moyens du son, avec l'écoute. Il n'y avait plus le temps de faire ça. Il fallait écrire un script au préalable de ce qu'on allait chercher sur le terrain et revenir avec exactement ce qu'il y avait écrit dans le script. Et faire un tournage dans un temps extrêmement raccourci, par exemple 3 jours, ne pas faire plus de temps d'heure de rush, c'est-à-dire d'enregistrement brut. Donc voilà, vraiment un concassage dans le temps et l'espace consacré à la création en tant que telle. Ensuite, cette industrialisation, elle s'est opérée également au niveau du traitement du son, une fois qu'on revient au studio. Les outils de montage audio, par exemple, sont apparus au milieu des années 2010, des petits plugins pour accélérer la vitesse de défilement du son. Par exemple, on fait en vitesse, on écoute le son en vitesse x2, voire x3. On a des petits plugins qui permettent de couper les silences. On a des plugins qui permettent de mettre en valeur les sons de la voix humaine au détriment des autres. Il y a des personnes dans des contextes de production industrielle qui se sont mises à faire leur montage en vitesse x2, par exemple. Donc, on écoute une... il n'y a aucun moment où elles vont, à part le moment où elles étaient à la captation du son, si jamais c'est elles qui l'ont fait, il n'y a aucun moment où elles vont entendre ni prêter attention à toutes les nuances dans l'expression, déjà dans l'expression vocale, mais dans tout le reste du son qu'il y a autour de l'expression vocale. C'est-à-dire, on vise directement l'efficacité d'un discours et l'efficacité d'un montage aussi, la rapidité du montage. Ensuite, l'industrialisation, une fois que le montage et le mixage sont effectués, le mixage, pareil, il y a plein de plugins prédéfinis qui permettent de l'optimiser, de l'automatiser de plein de façons, sans s'arrêter sur la singularité de telle prise de son plutôt que de telle autre, etc. Une fois que ça s'est fait, c'est envoyé dans les tuyaux sur Internet ou à la radio. La radio envoie aussi sur Internet. Et là, c'est mouliné à travers des plateformes qui sont devenues quasi inévitables pour diffuser son podcast, pour qu'il ait de l'audibilité, pour qu'il soit repérable simplement. Et ces plateformes elles-mêmes sont... rajoutent plusieurs couches de processus d'industrialisation différentes. Donc, à la fois en termes de comment elles vont conditionner l'écoute de l'auditeurice en mettant en avant certains podcasts plutôt que certains autres, en les filtrant en fonction de critères qui sont des critères censément purement techniques, mais qui en réalité sont également des critères qui relèvent du culturel, qui relèvent de... du choix des formats, de la manière de faire de faire du son, des thématiques abordées, de si elles sont considérées comme politiquement acceptables ou pas par des oreilles, par les gens qui administrent ces plateformes, et ensuite tout un tas d'algorithmes derrière qui vont également industrialiser l'écoute même des podcasts par les auditeuristes, puisque les données d'écoute. Et c'est là-dessus, en fait, c'est tout le business plan, en fait, c'est toute la raison d'être de ces plateformes. En fait, c'est la captation de données d'écoute, donc de données privées. C'est la mise en chiffres de toutes les données privées qu'on peut transmettre à travers nos écoutes. C'est-à-dire, quel podcast on écoute déjà, bien sûr. Ensuite, Est-ce qu'on a cliqué sur tel autre ou tel autre au moment où on a reçu tel invite? Est-ce qu'on écoute en vitesse accélérée ou pas? À quoi on passe après? Est-ce qu'on interrompt l'écoute? Est-ce qu'on la reprend sur un autre appareil? Toutes ces données-là font partie de ce que Shoshana Zuboff a défini comme le capitalisme de surveillance, c'est-à-dire la véritable raison d'être de toutes les boîtes numériques qui vendent certains services, ou en apparence elles vendent certains services, et en arrière-main, en réalité, c'est du commerce de données qui est vraiment leur vraie raison d'être économique.
Alors, du coup, là, on a fait un parcours dans la chaîne de production. Qu'est-ce qu'il en est exactement du contenu, même si on sent qu'il est transformé par cette chaîne, évidemment, notamment avec ce pitch, l'enlèvement du silence, etc. Mais est-ce que dès lors, il y a un formatage, ou est-ce qu'au contraire, ça va aller puiser tous les créneaux possibles, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire du contenu dans le podcast industriel?
Dans le podcast industriel, je pense qu'on peut déjouer les processus d'industrialisation, et qu'on peut difficilement d'ailleurs y échapper, même quand on fait de la radio associative. C'est-à-dire que il y a de l'industrie derrière une diffusion hertzienne, très clairement. Il y a de la compression du son, il y a plein de choses. Et il y a des radios qui ne luttent absolument pas contre ça. Il y a d'autres radios qui vont essayer de jouer sur ces facteurs, de redonner de la marge de liberté aux gens à l'intérieur de ça. Tout comme la grille d'antenne n'a pas existé de tout temps. Et au moment où elle a été imposée dans les années 80, au moment où il y a eu l'institution des radios libres, où les radios libres sont devenues officiellement des radios associatives, donc elles ont été obligées en fait de signer des contrats pour et notamment d'avoir des grilles d'antenne qui aujourd'hui toujours on doit transmettre au CSA. Tout ça forme un cadre et industrialise en fait le cadre d'écoute, mais à l'intérieur de ça on peut sans cesse jouer avec les limites et déjà les connaître, les reconnaître et jouer avec. Et je pense que dans le podcast, comme dans la radio seule, on peut également jouer avec toutes ces limites.
Et pour toi, ça fait quoi, cette montée du podcast ?
Ça a ouvert le champ des possibles. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé la radio, la fiction sonore, il n'y en avait pas. Ou peu. Tu vois, c'était pas un champ qui était exploré. La création sonore, aujourd'hui, tu as plein de gens qui vont dire « Ah ouais, super, j'écoute de la création. » Même les jeunes, ils te disent qu'ils écoutent de la ASMR, quoi. Quand j'ai démarré il y a 20 ans, franchement, on était sur des trucs très, très classiques en termes de radio. Je parle, je mets un tapis sonore, je mets un extrait sonore, hop, je reparle. C'était quelque chose de début, fin, enfin, chouette, très chouette aussi. Et j'en fais encore plein de la radio comme ça. Mais il n'y avait pas d'épisodes de fiction qui reviennent, d'épisodes, les formats longs de plus d'une heure, ça n'existait pas, ou très peu. Même dans les radios, ils te disaient « Ah non, il ne faut pas faire ça, quoi. » Et moi, j'ai fait des formations dans des radios, dans des organismes de formation très, très classiques. Et nous, on nous disait même d'être à moins de 3 minutes sur quasiment tout. Tu ne développes pas une pensée critique ou une pensée complexe en 3 minutes, quoi, ni en 12 minutes, d'ailleurs. Donc voilà, moi, je trouve que le format podcast, il a révolutionné, il a bousculé les formats de la radio, il a ouvert le champ des possibles en termes d'écriture sonore, et il a eu un effet sur l'écoute. C'est-à-dire que les gens, maintenant, sont prêts à écouter des choses beaucoup plus perchées, sans que ce soit intellectuel. Trop un télo, ils sont prêts à écouter du paysage sonore, ils sont ouverts sur... On a redécouvert la stéréo et même le avec les enregistrements 3D, la dimension, la tridimensionnalité du son, l'immersion dans le son, c'est redevenu des choses intéressantes, alors qu'on allait vers une régression en termes de format, le MP3 dégradé, Enfin, tu vois, tout ça. Là, aujourd'hui, on est sur des qualités d'écoute que je trouve super intéressantes quand même, quoi. C'est plutôt les radios qui voient le podcast comme une concurrence. Les radios associatives, parce que, elles, c'est important d'avoir une vie associative, de faire venir les gens au studio. Et d'ailleurs, ça fait partie de leur rôle. C'est comme ça qu'elles ont des financements. C'est vraiment des incubateurs de radio, normalement. Sauf que le podcast est un peu en train de leur voler la vedette. Mais je pense qu'en termes... Les auditeurs ne s'y trompent pas. Les auditeurs et les auditrices, ils continuent à écouter la FM. Et ils continueront d'ailleurs à défendre la FM. Mais c'est, je pense, aux radios associatives de ne pas regarder comme en chien de faïence les podcasteurs, parce que ce n'est pas des concurrents. Ils font un autre travail. Il y a plein de choses à imaginer en termes de radio. Elles se sont aussi bien endormies sur leur laurier, les radios associatives, pendant 30 ans. Hein. Il n'y avait que elles. Hein. C'était dans une situation de monopole aussi. Donc, bon. Mais ce n'est pas une critique, parce qu'une fois de plus, moi, j'aime beaucoup, beaucoup la FM. Je pense que c'est complémentaire.
Brasero podcast.
Ouais, je t'entends pas. Tu peux monter un peu?
Brasero.
En fait, on t'entend pas du tout là.
Brasero podcast.
Ouais, ah, c'est pas mal. Tu peux le dire un peu.
Brasero podcast.
Ouais. Tu dis comme ça. Brasero podcast. Ah, parce qu'on est contre les podcasts.
Alors, ta question, c'est est-ce que j'ai vu du changement? Ben oui, c'est sûr que vraiment, il y a un gros changement. Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui écoutent. Il y a vraiment, avec la mode du podcast, il y a vraiment beaucoup plus de gens qui écoutent. Puis il y a aussi beaucoup plus de gens qui produisent. Et ça fait que ça donne quand même accès aussi à des points de vue auxquels on n'avait pas autant accès avant. Ça permet, parce qu'en fait, mine de rien, moi, je défends les radios associatives, mais des fois, c'est quand même pas si évident que ça de pousser à la porte d'une radio associative selon le message qu'on veut y faire passer. C'est quand même un certain milieu, des certains codes, et on n'est pas forcément bien reçu. Donc, quand même, qu'il y ait plein de... Les podcasts, ça a permis vraiment aussi à d'autres personnes de faire passer leur message. Moi, je trouve que c'est génial. Mon frère, j'écoute des podcasts. Et après, je trouve que... En fait, c'est difficile de parler de podcast parce que c'est très, très large. Ça regroupe plein de réalités différentes. Mais c'est sûr qu'il y a tout le côté, les plateformes de podcasts, les podcasts industriels, avec un espèce de lissage de la forme, parce que c'est des espèces de recettes un peu. On va mettre tac-tac, une petite voix, une petite musique. Enfin, voilà. Donc, ça fait quand même un espèce de formatage. Et tout un côté qui, moi aussi, me fatigue, où finalement, l'enjeu, ça va être aussi comment tu vends ton podcast, la jolie image, la petite histoire, le petit nom marrant et tout. Bon, voilà, moi, c'est sûr que... Ben, moi, j'ai bien aimé aussi tout le côté radio-bricolage, où finalement, la forme, tu la trouves en fonction de ce que tu as envie de dire. Moi, pour moi, ouais, c'est important de continuer à faire de la radio en FM. Ben, les ondes et la FM, ça, c'est sûr que ça, c'est le côté local qui est vraiment important. Ça veut dire aussi que tu touches quelqu'un de l'endroit proche de là où tu es aimé. Donc, ça ramène aussi au niveau... aux gens avec qui tu peux t'organiser concrètement dans ton environnement, et aussi aux gens qui vont être dans leur voiture et tomber dessus par hasard. Et puis c'est un petit côté quand même, pour moi, franchement, ça fait des années que je fais de la radio, que je m'intéresse aux ondes, mais ça garde un côté un peu magique, la radiodiffusion. Expliquer comment ça passe par les ondes, ça reste quand même toujours un peu mystérieux. Du coup, il y a ça. Je trouve que bah, c'est aussi important parce que c'est une technologie de garder la connaissance de ces techniques, c'est quand même une énorme autonomie. Ça veut dire aussi que s'il n'y a pas Internet, bah, on peut quand même continuer à émettre avec des outils qui ne sont pas non plus inaccessibles. Un émetteur, une antenne, voilà.
Vous êtes maintenant bien installé devant votre poste de radio application de podcast. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher 5 étoiles pour votre émission préférée, Brasero. Ça y est, l'été arrive, et avec lui, les incendies, les pénuries d'eau, les lois votées en douce à l'Assemblée, et bien sûr, le tourisme industriel qui détruit la planète.
Mais heureusement, pour vous changer les idées, voici quelques rendez-vous pour l'été. Le festival de films et débats Résistance à Foix du 7 au 15 juillet. Les rencontres de radio féministe de Radio Rageuse du 21 au 23 juillet. Les 150 ans du premier congrès anarchiste à Saint-Imier en Suisse du 19 au 23 juillet. Le festival de cinéma Douarnenez du 19 au 26 août.
Prenez soin de vous cet été pour que la rentrée en soit encore plus explosive.
C'était Brasero, Brasero Podcast. Quelques années après Pourquoi faire la radio, il fallait bien faire le Brasero Podcast. Vous avez pu entendre Juliette, Alexandra, Karine, Brisco. Petite chanson de kiff, t'es plein de petites intermèdes, interludes fabriquées avec les petites mimines des gens de Brasero. Et voilà, c'était tout à fait comme à la radio. Et puis on vous dit à bientôt, certainement après la catastrophe estivale, même si les ondes, par la magie de l'automatisme, rediffuseront certainement du Brasero et du Brasero les lundis de 19h à 20h sur Canal Sud 92.2 ou sur canalsud.net si vous êtes partout dans le monde. Salut.